Conversation sur la mort, Christian de Cacret.
Bonjour et soyez les bienvenus pour une nouvelle conversation sur la mort et, comme vous le savez, sur la vie. Il est des circonstances où le deuil est particulièrement cruel, car il vient annuler une promesse de vie. Les deuils périnataux suscitent en effet une souffrance que notre société manifestement peine à reconnaître et à accompagner. Alors notre invitée, elle a puisé son engagement au service des parents confrontés à de tels deuils dans 18 années passées à exercer le métier de sage-femme. Aujourd'hui, elle a rejoint l'association AGAPA, dont la mission est, je cite, « d'offrir à tous la possibilité de parler et d'être écouté après une grossesse qui n'a pas été menée à son terme ». Christine Krauter, bonjour.
Bonjour.
Alors, les deuils périnataux, sur les, mettons, 15-20 dernières années, sur la question du deuil, sont ceux qui ont probablement fait l'objet de plus d'évolutions dans la réglementation. L'essentiel étant, retenons cela, que les femmes, et aussi sans doute des hommes, les pères, ont demandé à la puissance publique de reconnaître la réalité de ces deuils. Pourquoi ? Quel était ce besoin, manifestement très fort, présent chez ces personnes touchées par ces deuils. Quelle était leur revendication, au fond ?
Je pense que pour ces personnes qui perdent comme ça un petit attendu pendant la grossesse, c'est très très important d'avoir une reconnaissance de ce lien à cet enfant qui n'existe pas tellement pour l'entourage, hein, qui n'est pas entré dans le champ social et qui n'a pas d'existence aux yeux des autres. Et donc pour les parents, c'est souvent important de se sentir reconnu en tant que parent de ce petit qui n'a pas pu naître.
Mais donc, rétrospectivement, c'est très impressionnant ce qu'on est en train de se dire là, parce que ça veut dire qu'à contrario, il y a des générations d'hommes et de femmes qui ont gardé une souffrance secrète parce qu'elle était peu ou pas reconnue.
Oui, tout à fait. Bon, il est vrai aussi que nous ne vivons pas dans la même société et que le deuil des petits pendant la grossesse, évidemment, autrefois, c'était très très fréquent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. C'est ce qui fait aussi que c'est aussi plus douloureux, probablement. Hein, parce que les personnes qui vivent ça, très souvent, nous disent « Mais enfin, moi, jamais j'aurais pu penser que la grossesse pouvait s'interrompre, que ce projet de vie ne pouvait ne pas aboutir. » Donc, ça, évidemment, ça joue beaucoup. Et puis, je crois que c'est important, du coup, pour ces personnes d'être, comme je le disais, de pouvoir ritualiser... éventuellement faire les obsèques de cet enfant, réunir des proches, qui est quand même une reconnaissance.
Et parmi les mains tendues à ces personnes souffrantes de ces deuils si singuliers, il y a cette association à laquelle vous participez depuis sans doute plusieurs années.
Oui, moi je suis depuis à peu près 14 ans.
C'est long. Quelle est l'intuition et quel est le service au fond qui est proposé à travers vous ?
Alors justement, c'est déjà de pouvoir permettre à ces personnes de déposer leur chagrin, de déposer leur souffrance, de pouvoir parler de cet enfant, parler longuement si elles le souhaitent, de pouvoir pleurer cet enfant si elles le souhaitent, parce qu'elles se sentent souvent en décalage avec leur entourage qui a souvent tendance à minimiser. Et leur dire, c'est d'autant plus vrai quand la grossesse s'interrompt de manière précoce, hein, les fausses couches. Très souvent, leur entourage leur dit, mais c'est pas grave, tu en auras un autre, à commencer par les médecins qui disent que c'est banal. Et c'est vrai que c'est relativement banal. Mais donc, il y a pour elle un décalage. Et donc, c'est très, très important pour elle de pouvoir déposer ça, être entendue. Et puis, du coup, on leur offre différents types d'accompagnement, soit un accompagnement en groupe, où elles peuvent, elles et ils, hein, parce qu'il y a aussi des pères hein, qui participent et qui suivent ces accompagnements, des accompagnements en groupe, des groupes de parole, où ils peuvent cheminer ensemble sur une année. On propose aussi des cafés-rencontres, des rencontres plus ponctuelles autour de différentes thématiques, hein, parce que il faut quand même juste préciser qu'AGAPA accompagne tous les types de deuil, et donc ça va de la fausse couche en début de grossesse, l'avortement, la fausse couche tardive, l'interruption médicale de grossesse et la mort in utero, mort autour de la naissance. Vous voyez, c'est très varié.
Hein, alors, j'en appelle aussi à la sage-femme à travers ma question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la singularité de ce que vit la femme. Là, pour le coup, c'est la femme d'abord, parce que c'est elle, dans ses entrailles, qui porte cette promesse de vie. Mais cette promesse n'est pas... Enfin, elle est connue du monde par l'information qu'on en donne, un ventre qui s'arrondit, mais de bébé, il n'y a pas. Et, du coup, comment est-ce qu'on va rencontrer cette souffrance? Comment vous la décririez, si je peux m'exprimer ainsi?
Ben, je pense que c'est une souffrance qui peut être très profonde, parce qu'elle touche au projet, elle touche parfois à le désir d'enfant, le désir de fonder une famille. Ce sont des désirs qui existent parfois depuis fort longtemps, bien avant même l'existence du couple. Donc c'est parfois un projet qui est très, qui a vraiment à voir avec l'identité même de la personne. Donc, quand ce projet ne peut pas aboutir, certaines femmes vont le vivre de manière très, très profonde, avec des sentiments d'échec, de dévalorisation, des sentiments de culpabilité, de honte parfois, hein, particulièrement quand il y a eu décision d'interrompre la grossesse. Et du coup, je dirais que c'est une des caractéristiques, une des choses que l'on entend, que l'on accompagne souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on propose aussi, je vous ai parlé des groupes de parole, mais on propose aussi un accompagnement individuel. Alors bien sûr, on peut recevoir les personnes une fois, deux fois, en fonction de ce dont elles ont besoin, mais on leur propose aussi à celles qui le veulent et à ceux qui le veulent, un parcours d'accompagnement qui va se dérouler sur une vingtaine de rencontres et qui va vraiment les accompagner dans ce cheminement de deuil et leur proposer pas seulement de déposer leur chagrin, mais aussi de chercher à inscrire cet événement douloureux et cette perte et ce deuil dans leur histoire, de repartir de leur histoire, la manière dont elles se sont construites, leurs ressources, leur fragilité, et du coup de donner du sens aussi à cette perte qui est, comme vous le disiez, une perte qui n'a pas de sens, finalement. La perte de celui qui va venir, qui va me succéder, elle n'a pas de sens.
Dans l'ordre de l'incarnation, je dirais, enfin, vous avez évoqué la question de la ritualité. Je crois qu'on incite, ou on propose en tout cas aux parents, de voir l'enfant. Est-ce que c'est une façon de reconnaître la singularité de cet être ?
Oui, tout à fait. Ça peut être très important. Et les maternités ont fait énormément, ont beaucoup évolué sur ce plan-là. Moi, quand j'étais sage-femme au tout début, on ne pensait pas forcément à proposer de voir l'enfant, à prendre des photos, à prendre une empreinte. Aujourd'hui, les maternités le proposent. Évidemment, c'est toujours une proposition, parce que ça n'est pas, toute personne n'est pas prête non plus à voir l'enfant, surtout quand c'est des accouchements précoces ou qu'il y a des malformations. Donc, c'est d'être à l'écoute du besoin des parents, et ça peut être très précieux pour eux d'avoir fait la rencontre avec ce petit, parce que sans ça, c'est un enfant qui est dans leur imaginaire, dans leur qui est pensé, mais qui n'a pas de réalité.
Donc, et puis sûrement beaucoup de questions sur le sens et dans l'ordre du spirituel. Enfin, que vaut cette vie qui n'a pas été vécue? Enfin, est-ce que vous travaillez sur cette question-là aussi lorsqu'elle est posée par les parents? Celle de la cohérence, c'est un sujet auquel des générations avant nous se sont confrontées, évidemment.
Ben là, je dirais que nous, on est AGAPA, même si AGAPA est une association fondée par des chrétiens, une association chrétienne, nous sommes vraiment très, très respectueux de ce que, justement, des représentations qu'ont chaque personne de la mort et de ce que représente cette vie. C'est évidemment aussi la question douloureuse parfois d'interrompre ou pas une vie, quand commence la vie, toutes ces questions-là. Nous avons chacun nos convictions, nos représentations des choses. Et nous, on accompagne les personnes vraiment là où elles en sont. Et c'est simplement de leur permettre de clarifier, de poser des mots sur ce que ça représente pour elles. Et c'est ça qui va aussi permettre d'inscrire cette histoire et ce deuil dans leur vie, et de lui donner du sens.
Alors vous êtes, je le sais, dans un infini respect de la singularité de tous les parcours. Mais vous... personnellement, Christine Krauter, comment est-ce que vous vivez dans la durée? Vous avez parlé de dizaines d'années au service de ces gens, d'abord comme sage-femme, maintenant dans cette association. Comment est-ce que vous vivez personnellement, du point de vue de votre propre regard sur la mort, sur le sens de l'existence, ça doit quand même beaucoup vous questionner, ce travail, ces accompagnements.
Oui, oui, tout à fait. Ça questionne beaucoup et puis c'est jamais par hasard qu'on va vers ces accompagnements.
Vous voulez nous en dire quelque chose
oui,
de ce...
Bah écoutez, je crois vraiment, pour moi, ce qui est le plus fort et le plus riche dans cet accompagnement, c'est justement que la vie et la mort sont reliées toujours. Et je crois vraiment pouvoir dire, en tous les cas, c'est ce dont je suis témoin tous les jours dans mes accompagnements, les accompagnements à Agapa, c'est que oui, la vie est plus forte que la mort. Et que quand on est accompagné, quand on est, qu'on peut faire un chemin d'acceptation, un chemin de vérité aussi, hein, sur soi-même, sur ce que représente sur cet événement que je vis, quand on peut faire ce chemin accompagné, la vie vraiment reprend ses droits. Et j'ai même accompagné des femmes, nous avons même accompagné des femmes à Agapa qui pouvaient nous dire « la perte de mon enfant m'a fait grandir, hein, » ou m'a rendue plus vivante, hein, après un accompagnement qui permet de donner du sens et qui permet de...
En quoi ça les a rendues plus vivantes?
Eh bien peut-être parce que justement elles ont pris la mesure que nous sommes tous confrontés à la mort et qu'elles ont peut-être pu aussi... relier tout ça, donner du sens par rapport à justement, elle, leur histoire, à ce que ça représente. Et je crois que, du coup, elles vont aussi, au cours de cet accompagnement, s'ancrer davantage en elles-mêmes, être plus en vérité aussi, peut-être, avec elles-mêmes, et peut-être, du coup, retrouver aussi ce lien à elles-mêmes, leurs ressources. Et c'est ça, la vie. Et c'est ça, la vie. Et du coup, je crois qu'elles peuvent découvrir beaucoup de choses sur elles-mêmes.
C'est un chemin profondément spirituel que vous décrivez.
Ah oui, pour moi, c'est vrai. Bon, moi, je suis chrétienne. Et c'est vrai que pour moi, tous les jours, je me agapa. J'ai cette phrase de la Bible qui dit « Oui, la vie est plus forte que la mort ». Et il y a une autre phrase, d'ailleurs, que j'ai entendue dans le film « Et je choisis de vivre » qui sort en ce moment en salle, qui est un film magnifique que je conseille à tout le monde d'aller voir. Il y a une phrase dans ce film que j'aime beaucoup, qui résume assez bien tout ce que je peux vivre à Agapa, c'est cette phrase qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Voilà. Et ça,
Christine,
c'est ma conviction.
Crantin, merci. Je précise en conclusion que l'association Agapa ouvre ses bras à d'éventuelles candidatures pour le bénévolat. Vous la retrouvez, cette association, sur Internet, bien sûr. Merci, à bientôt.
Au revoir.